Nous essaierons de nous concentrer sur l'oxygénation de l'atmosphère et des océans. Alors, qu'allons-nous voir aujourd'hui? Donc, en introduction, on essaiera de voir la place du sujet dans les enseignements, puisque ce sont des choses que vous allez devoir enseigner, sous peu, pour certaines et certains, et essayer de présenter l'originalité de la Terre dans le système solaire, d'accord, les différents caractères originaux de la Terre. Quels sont les marqueurs de la présence d'oxygène? Comment est-ce qu'on peut dire qu'il y avait tant de pourcents d'oxygène dans l'atmosphère auparavant? Et on essaiera de voir quelques repères et dates importantes dans l'histoire de la Terre. On va essayer de se situer dans l'espace et dans le temps, donc dans l'histoire de la Terre. Nous verrons en premier lieu le grand événement Occident, peut-être l'événement majeur d'oxygénation de la planète Terre, entre 2,4 et 2,2 milliards d'années. Le milliard ennuyeux. Alors, ça va paraître, comme ça, ça paraît pas très intéressant. Ça ne durera pas plus de 5 minutes. Néanmoins, c'est un milliard d'années pendant lesquelles sont mis en place, notamment, la phylogénie des eucaryotes, telle qu'on la connaît à l'heure actuelle. Et nous parlerons enfin des oxygénations de la fin du protérozoïque et des débuts du paléozoïque, donc ce qui a conduit à l'oxygénation de la Terre telle qu'on la connaît actuellement. Et puis, pour conclure, nous parlerons de la complexité des interactions entre les êtres vivants et l'environnement. Il y a des évolutions rapides du savoir. Alors, comment enseigner des domaines qui évoluent rapidement? Je pense qu'on essaiera de réfléchir. Comment est-ce qu'on peut agir de manière à peu près éthique, responsable, et ne pas raconter, de bêtises. Alors, le référentiel, donc vous devez parler. Donc, c'est dans l'enseignement scientifique. Bon courage, ce sont pas toujours des gens passionnés de SVT. Vous devez parler de l'atmosphère primitive qui était très différente de l'atmosphère actuelle, de son évolution, ainsi évidemment que l'évolution actuelle. Et si on va de manière un peu plus précise dans le référentiel, donc on voit la composition de l'atmosphère primitive, on parle d'eau liquide sur Terre. Alors là, il y a un petit quelque chose, les premières traces de bactéries photosynthétiques datées d'il y a au moins 3,5 milliards d'années, on verra qu'il y a quelques petites corrections à apporter à ces assertions. Alors ensuite, mettre en relation la production de dioxygène avec des indices géologiques, on va faire quasiment que ça, et suivre l'évolution de la teneur atmosphérique au cours des temps et la relier à l'évolution de la biodiversité, c'est un paramètre extrêmement important et il y a eu des résultats, quand je dis récent, c'est décembre 2024. Donc j'essaie de vous présenter. Alors vous avez ici trois planètes telluriques, dont la Terre. Attention, donc Vénus, la Terre et Mars. Attention, Mars, la planète rouge, est un peu plus petite, d'accord? Alors, qui ont des paramètres astronomiques assez différents, mais si on s'intéresse à la composition de l'atmosphère, on remarque que ce sont des atmosphères assez proches entre Vénus et Mars, à savoir à peu près 95% de CO2 et à peu près 3% de diazote. Tandis que la Terre, là, est totalement originale, avec environ 80% de diazote et 20% d'oxygène. On pense, et on a de très bonnes raisons de le penser, que ces planètes se sont formées par accrétion de météorites qu'on appelle les chondrites. Et si on prend une chondrite comme la chondrite Allende et qu'on la fait dégazer, les gaz qui sont émis, qui devaient être semblables à l'atmosphère primitive, on observe de l'eau, qui est plus condensée, du CO2 et du N2. Donc l'atmosphère primitive de la Terre était vraisemblablement comme celle de, avait la même composition que celle de Mars et de Vénus. Elle a dû évoluer depuis. Et ce qui est aussi frappant, vous avez ici un diagramme pression-température de l'eau, en abscisse la température, en ordonnée la pression, et les différents domaines dans lesquels on a le liquide, le solide ou le gaz qui sont dominants. Les trois points rouges représentent les conditions de ces trois planètes. Donc Mars, c'est tout petit vers la gauche, et Vénus, ça sort du cadre, d'accord. La Terre est la seule planète qui peut avoir, à l'heure actuelle, de l'eau liquide en surface. Et on peut se demander depuis quand, puisqu'il y a à peu près 4,6 milliards d'années d'histoire de la Terre. Ici, cette diapositive représente les tout débuts de l'histoire du système solaire, et ce qui est à peu près certain, là tout le monde est d'accord, après l'impact qui a formé la Lune, il était absolument impossible qu'il y ait de l'eau liquide sur Terre. C'était beaucoup trop chaud. Donc, à 4,45 milliards d'années, a priori, il n'y avait pas d'eau liquide sur Terre. Mais à 4,4 milliards d'années, on a des indices assez forts, donc qui ont été trouvés en Australie. Alors, c'est très indirect. C'est dans des petits minéraux qu'on appelle les zircons. C'est lié à des détails de la composition isotopique et de certains minéraux. Mais à 4,4 milliards d'années, on a de l'eau liquide, donc des océans, a priori, et on a de la croûte continentale sur Terre. Alors, le dioxygène, vous avez ici, peut-être pour certains, certaines qui s'en souviennent, la représentation de Lewis, avec la double liaison, les doublés non liants. Donc, la molécule de dioxygène, qui est une originalité de la planète Terre. Je vous ai présenté ici une échelle des potentiels redox. Alors, attention, avec les conventions des biochimistes, à savoir, les réducteurs les plus puissants sont en haut, les oxydants les plus puissants sont en bas. Et l'oxygène, facile de s'en souvenir, est un très bon oxydant. Eh bien, ce caractère oxydant fait que le dioxygène a une influence majeure sur ce qu'on appelle la spéciation, la forme sous laquelle seront les métaux et les ions métalliques. Vous avez ici ce qu'on appelle un diagramme potentiel pH du fer. Donc, en abscisse, on a le pH. À gauche, c'est très acide. À droite, c'est très basique. Et en ordonnée, attention avec la convention des physico-chimistes, en haut, c'est oxydant, en bas, c'est réducteur. Et, une série de pointeurs, si je regarde, par exemple, ici, le fer de plus, Fe de plus et Fe3 plus sont en solution, tandis que FeOH3 et FeOH2 sont des précipités. Lorsque j'ai quelque chose qui est soluble, si jamais j'augmente le potentiel, je rends le milieu plus oxydant, ou si je vais vers quelque chose de plus basique, je vais avoir de la précipitation. Et pour le faire, c'est la rouille. Donc les problèmes de corrosion sont un problème industriel et humain absolument majeur. Alors je peux regarder d'autres métaux, par exemple ici le manganèse, qui existe sous plusieurs états d'oxydation, on en reparlera tout à l'heure. Mn de plus, là, il est soluble. Et dès lors que je vais dans ces zones-là, d'accord, il est précipité. Alors, à retenir, de manière générale, les ions métalliques sont solubles dans les conditions acides et réductrices, et donc ils précipitent dans les conditions oxydantes et basiques. Évidemment, comme c'est la nature, il y a toujours des exceptions. L'uranium, le cérium, le molybdène, exceptions dont se servent en permanence les géochimistes. Alors, quels sont les facteurs qui modulent la production de dioxygène ? En pratique, c'est principalement l'organisme, la présence d'organismes qui réalisent la photosynthèse oxygénique. Et j'insiste sur ce terme, certains organismes réalisent de la photosynthèse qui ne produit pas d'oxygène. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez ici l'équation bilan de la photosynthèse. Si jamais je forme de la matière organique, mais juste après il y a des hétérotrophes qui la bouffent, qui la mangent, qui la respirent, d'accord ? Eh bien, le bilan, ça va pas produire beaucoup d'oxygène. Donc parfois, le simple fait de préserver de la matière organique, de la cacher, de la mettre sous le tapis, ça permet d'augmenter la quantité d'oxygène dans l'atmosphère. De même, vous avez ce qu'on appelle des puits à oxygène, des molécules réduites Fe2+, H2, CH4, qui, de manière spontanée, vont se lier à l'oxygène, qui va les oxyder. Si j'augmente ou je diminue la quantité de ces puits sur Terre, je vais jouer sur la concentration de l'oxygène dans l'atmosphère. Alors la solubilité de l'oxygène dans l'eau, on va pas faire de théorie de physico-chimie, ça se calcule avec une constante qu'on appelle la constante de Henry, et à 25 degrés, dans l'eau pure, c'est à peu près 9 mg par litre d'oxygène que l'on a, avec l'atmosphère actuelle. Si je mets du sel, c'est un peu différent, puisque les ions salins vont attirer les molécules d'eau qui ne sont plus disponibles pour solubiliser l'oxygène. Je suis plutôt vers 7 mg par litre. Attention, dans ce qu'on appelle les zones à oxygène minimum, on peut avoir beaucoup moins, d'accord, beaucoup moins d'oxygène dans l'eau. Alors, originalité de la planète Terre, on va les énumérer rapidement, l'eau liquide, le dioxygène, les êtres vivants, mais également, on en parlera beaucoup aujourd'hui, la tectonique des plaques et la dichotomie entre une lithosphère continentale et une lithosphère océanique. Et pour vous faire l'histoire de la Terre à la hache, d'accord, rapidement, ça s'est accrété vers 4,6 4,56 milliards d'années, ce qui inaugure l'AD1. À 4 milliards d'années sur Terre, il y a un événement qu'on appelle le grand bombardement tardif. Donc, il faut imaginer un impact de type Chicxulub tous les 20 ans pendant au moins 20 millions d'années. Alors, c'est un petit peu décrié, enfin contesté, mais ça reste globalement accepté. Ce qui nous fait entrer dans l'Archéen. Et la Terre se refroidissant, puisqu'elle évacue sa chaleur, à 2,5 milliards d'années, il y a un changement dans le style tectonique, dans le type de laves qui sont émises. Et on passe à une période qu'on appelle le protérozoïque, qui va nous occuper très longtemps aujourd'hui. Et enfin, à 539 millions d'années, nous avons les débuts du Phanérozoïque, qui sont marqués par une révolution agronomique cambrienne. C'est vrai qu'il y a des petits vers qui vont fouiller dans le sable, dans les sédiments, faire de la turbation, et une explosion des formes de vie. Alors, trois événements majeurs d'oxygénation. Le grand événement occident à 2,4-2,2 milliards d'années, celui qui est néo-protérozoïque et l'événement paléozoïque. Et pour chacun, on essaiera de voir quels sont les marqueurs et l'ampleur de cet événement, quelles sont les causes, quelles sont les conséquences. Alors, grand événement occident, 2,2 à 2,4 milliards d'années. Qu'est-ce qui fait que l'on sait que dans cette période-là, l'oxygénation de la Terre a commencé? Alors, vous avez des marqueurs chimiques et minéralogiques, et un des premiers. Donc, vous avez ici, dans le désert du Kalahari, une mine sud-africaine de manganèse. Donc, le manganèse, je vous dis, lorsque c'est oxydé, il précipite. Et il ne peut être oxydé quasiment qu'en présence d'oxygène. Ce sont des bactéries qui réalisent cette oxydation. Et retenez ça, à 2,4 milliards d'années, on a les premières traces, je veux dire incontestées, d'oxygénation de l'atmosphère. Et si on remonte un peu plus loin, il y avait des conglomérats qui vraiment stupéfiaient les géologues qui les étudiaient. Vous avez ici un conglomérat donc du Witwatersrand en Afrique du Sud également. C'est un conglomérat fait de galets de pyrite. C'est-à-dire qu'il y avait de la pyrite à l'affleurement qui a été altérée, érodée, transportée, redéposée. Et je pense vous dire qu'elle, entre guillemets, elle n'a pas une sale tête, elle a l'air tout à fait, entre guillemets, en forme. Eh bien, sur votre droite, vous avez un affleurement actuel, donc c'est dans l'Isère. On a un glacier qui s'est retiré et des formations du carbonifère qui contiennent de la pyrite. Je pense que vous le voyez, la pyrite, FeS2, qui est une forme, un minéral assez réduit, la pyrite a l'air de souffrir, le fer est oxydé, le soufre est transformé en sulfate, et il est fort peu probable que on transporte des galets de pyrite depuis l'Isère jusqu'au Rhône et dans la Méditerranée, la pyrite sera dissoute, totalement détruite auparavant. Eh bien, la présence de galets, donc de pyrite et d'uraninite, et j'insiste, détritique, avant 2,2 milliards d'années, prouve que l'atmosphère était anoxique. Une autre, donc on a parlé du manganèse, un peu du soufre, on va parler du fer. Alors, vous avez des minerais de fer qu'on appelle les bifs ou minerais formation de fer rubané. Ce sont des sédiments généralement plutôt anciens. La plupart sont plus vieux que 1,9 milliard d'années. Ce sont des roches très riches en silice qui montrent des laminations de fer à l'intérieur. C'est la principale ressource en fer actuellement. Et ces sédiments océaniques, donc dans leur composition du point de vue fer, il y a de l'hématite Fe2O3 et de la magnétite qui contient un peu de fer 2. Et c'est ce qu'il faut retenir. Ça correspond à une oxydation ménagée du fer, une oxydation qui n'est pas totale. Le fer est partiellement oxydé. Eh bien, à partir de 2,2 milliards d'années jusqu'à presque maintenant, nous avons plutôt ce qu'on appelle des red beds, désolé pour l'anglicisme, des lits rouges. En fait, des formations dans lesquelles le fer, lui, est totalement oxydé. Il n'y a plus que de l'hématite. Et si je regarde, c'est très schématique, les proportions relatives de ces minéraux, on voit qu'il se passe quelque chose, en gros, 2,4, 2,2 milliards d'années. Alors, quels sont les mécanismes de formation des bifs? Parce que là-dessus, ce sont des choses qui ont extrêmement, toujours, évolué. Donc, je rappelle, c'est un symptôme d'une oxydation ménagée du fer. Il y a trois mécanismes principaux. Le premier, totalement physico-chimique, c'est les rayons du soleil qui vont décomposer l'eau, ce qu'on appelle la radiolyse. Un petit peu d'oxygène peut permettre d'oxyder du fer qui se trouve à proximité. C'est totalement rejeté à l'heure actuelle. Le mécanisme qui m'a été enseigné, que j'ai enseigné aussi, c'est le fait que des cyanobactéries produisent de l'oxygène et cet oxygène oxyde ensuite le fer. Et le mécanisme, j'essaie de vous convaincre que c'est le plus crédible à l'heure actuelle, ce sont des bactéries qui réalisent la photosynthèse, excusez-moi, anoxygénique, qui le réalisent. Alors, voilà, on va dire, de la science des années 90. Mais 1900, pas 1800. Alors, pourquoi ce modèle, quand même, n'est pas ridicule? Il est compatible, oui, pardon, il y avait des upwelling qui transportent le fer jusqu'à des plateformes, et sur ces plateformes, l'oxygène produit par les cyanobactéries rencontre ce fer et produit une petite pluie d'oxyde. Alors, pourquoi est-ce que ce modèle était crédible? Eh bien, parce qu'il est compatible avec l'existence des upwelling saisonniers pour faire des laminations, parce qu'il est compatible avec l'absence de matière organique dans les minerais de fer rubanés. Il n'y a pas de matière organique dans les bifs. Alors que si je suis une petite bactérie et que je réduis du fer, bah, tôt ou tard, je vais couler avec les oxydes de fer. Et enfin, il est compatible avec une origine précoce des cyanobactéries qui auraient formé les premiers stromatolites. Mais ce modèle a ses faiblesses. Alors tout d'abord, il suppose une apparition précoce des cyanobactéries. On va voir que ça n'est sans doute pas le cas. D'accord? Et ensuite, il n'explique pas les rapports isotopiques du fer dans les minerais de fer rubanés. Vous connaissez les fractionnements isotopiques réalisés lors de la photosynthèse, d'accord? La vie préfère plutôt les isotopes légers. Eh bien, en ce qui concerne le fer, ce qui a été montré de manière expérimentale, c'est que lorsque des bactéries oxydent le fer, elles vont avoir une préférence pour les isotopes lourds. Or, l'hématite et la magnétite sont enrichis en fer plutôt lourd, fer 56. Donc, c'est tout à fait compatible avec de la photosynthèse anoxygénique. Les géologues aiment bien trouver des analogues actuels aux phénomènes anciens. Et donc, il y a des collègues qui sont allés dans le lac La Cruz en Espagne. C'est un lac qui est un très bon analogue de l'océan Archéen. Très bon analogue parce que il n'y a pas beaucoup de sulfate, sulfure, pas beaucoup de soufre. Il y a beaucoup de fer, surtout au fond, et il n'y a pas d'oxygène, attention, au fond. Alors c'est un analogue qui a ses limites parce que les océans archéens étaient très salés, c'est un lac d'eau douce. Eh bien, ce qu'ont vu les personnes qui sont intéressées à ça, ils ont regardé, lorsque l'on n'a plus d'oxygène, ils ont prélevé de l'eau, prélevé des micro-organismes, et ils les ont cultivés. Vous avez ici, au cours du temps, l'évolution de la teneur en fer 2 et fer 3. Et ce que l'on voit, c'est que lorsqu'il y a de la lumière, light, on consomme du fer 2 plus, le fer 3 plus augmente, il y a oxydation du fer. Lorsque je les tue, lorsque j'autoclave tout, killed, il ne se passe rien. Lorsque c'est à l'ombre, il ne se passe rien. Donc on a un analogue actuel, d'accord, de ces minerais de fer rubanés. Il reste à expliquer l'absence de matière organique dans les minerais de fer rubanés. Je vous ai dit que l'océan archéen était très salé, à cause de l'hydrothermalisme qui était forcément très intense. Si j'ai des océans très salés, ça veut dire que j'ai beaucoup de silice dans l'océan. Cette silice va s'absorber sur les surfaces cellulaires et, a priori, va faire baisser leur charge. Et si leur charge est plus faible, elles n'attireront plus, elles vont repousser les oxydes de fer. Alors ici, vous avez ce qu'on appelle le zeta potentiel, en gros la charge de la membrane des bactéries. Donc je crois qu'ils ont cultivé, c'est un chlorobium. Et vous voyez que lorsque j'augmente la teneur en silice dans le milieu réactionnel, donc c'est une expérience qui a été faite en laboratoire, la charge baisse. Et la baisse de cette charge fait que ils ont dû chercher très longtemps, ils le disent dans leur publication, pour trouver des bactéries collées à des oxydes de fer. Vous avez ici le joli chlorobium avec une superbe membrane gramme négatif. Et alors l'idée qui est proposée donc par ces chercheurs qui ont produit cette recherche, c'est que on a de la photosynthèse anoxygénique dans les océans qui produit les minerais de fer rubanés, d'accord ? Et la matière organique produite par ces producteurs primaires est ensuite métabolisée ce qui, en fin de compte, donne du méthane, méthane qui dégaze et qui permet d'avoir un climat relativement doux, bien que le soleil était sans doute beaucoup plus pâle, beaucoup moins vigoureux, avait une activité beaucoup moins intense à l'époque. Alors, marqueur isotopique, là, on va essayer d'y aller doucement. Vous avez ici une droite de fractionnement qui est célébrissime avec le delta O17 et le delta O18. Alors, j'ai ici la droite de fractionnement terrestre, Earth, et je pense que vous voyez que les échantillons lunaires se répartissent sur cette droite. C'est un des arguments les plus forts pour dire que la Lune s'est formée à partir de matériel terrestre. Si jamais je fractionne de 2 en delta O18, je fractionne d'1 en delta O17. Pourquoi ? La différence O18 moins O16, c'est deux fois O17, la différence O17 moins O16 en termes de masse. Eh bien, donc on a un fractionnement qui est dépendant de la masse. Les bactéries peuvent métaboliser le soufre, d'accord, et vont, ce faisant, réaliser un fractionnement dépendant de la masse. Et sans rentrer dans les détails, on va dire que lorsque le fractionnement est dépendant de la masse, le gros delta, 33S, est égal à 0. Il existe un fractionnement indépendant de la masse, mais c'est un fractionnement qui dépend de la présence d'UV dur, donc c'est-à-dire très énergétique, à courte longueur d'onde, dans l'atmosphère. Et donc ça va fractionner les gaz volcaniques de manière un petit peu, on va dire, baroque, indépendante de la masse. Et ce que l'on observe ici, donc c'est une compilation de données sur les soufres, sulfures et sulfates de l'archéen et actuel, c'est que avant 2,4 milliards d'années, on a fractionnement totalement indépendant de la masse. Entre 2,4 et 2,2, ça existe, mais c'est rare. Après, pas du tout. Et alors, comment reconstruire la suite des événements? S'il y a fractionnement indépendant du soufre indépendant de la masse, c'est qu'il y a du UV dur. Ben donc, s'il n'y a plus de fractionnement, c'est qu'il n'y a plus d'UV dur. D'accord? S'il n'y a plus d'UV dur dans l'atmosphère, alors soit le soleil fonctionne différemment, c'est totalement improbable, soit il y a quelque chose qui a absorbé les UV durs. Et ce quelque chose, c'est, on sait à l'heure actuelle, très probablement la présence d'ozone. Donc il y a de l'ozone au sein de l'atmosphère. Mais si j'ai de l'ozone au sein de l'atmosphère, c'est forcément que j'ai de l'oxygène. Alors maintenant, ce grand événement, quelles sont les causes? Évidemment, apparition de la photosynthèse oxygénique. Vous avez ici des biofilms de bactéries qui forment ce qu'on appelle des stromatolites. Les cyanobactéries réalisent la photosynthèse oxygénique avec production de dioxygène. Et pourquoi est-ce que les carbonates précipitent? C'est ce qu'on appelle un déplacement d'équilibre. Quand je fais de la photosynthèse, je vais piéger du CO2 et je vais tirer l'équilibre ici vers la droite. Alors, depuis quand a-t-on des cyanobactéries qui font la photosynthèse oxygénique? Vous avez ici des stromatolites de 2,8 milliards d'années trouvés au Canada, mais je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est un peu cavalier de dire « Ah bah, ça a la même gueule, ça a la même forme, c'est les mêmes organismes. » Un petit peu olé olé. D'autant plus que il y a quelque chose qu'on m'a appris quand j'avais vos âges, c'est que stromatolite égale cyanobactéries. Bien, vous avez des gens de Paris-Saclay qui sont allés au Mexique, dans le lac Los Azufres, et qui ont ici échantillonné des stromatolites actuels, et ils ont fait ce qu'on appelle du métabarcoding. Ça veut dire, je prends un peu de stromatolite, j'extrais de l'ADN, et je séquence un gène marqueur d'intérêt taxonomique, en gros le gène qui code pour la petite sous-unité 16S ou 18S des ribosomes. Et ça me permet de voir qui est là. Et ce que l'on voit, c'est que les cyanobactéries, certes, donc c'est en bleu ici, sont présentes très souvent, voire majoritaires, mais ce ne sont pas les seules. D'accord? Il n'y a pas que des cyanobactéries dans les stromatolites. Donc l'égalité n'est pas vraie. De plus, on peut essayer de dater l'apparition des cyanobactéries par ce qu'on appelle les horloges moléculaires. Alors, attention, il y a au moins quelques biologistes spécialistes de ça dans la salle. Je vais essayer de faire attention. Comment fait-on pour faire une horloge moléculaire? Vous prenez des séquences d'ADN ou de protéines d'organismes actuels que vous alignez. Et vous réalisez après, donc il y a des programmes informatiques qui le font assez bien, ce qu'on appelle un arbre phylogénétique qui va vous représenter les distances et les relations de parenté entre ces êtres vivants actuellement. Et vous voyez, parfois, si vous arrivez à dater l'apparition donc d'un fossile que vous supposez être l'ancêtre de deux espèces actuelles, vous réalisez ce qu'on appelle la calibration de l'horloge. Et en faisant des suppositions plus ou moins réalistes sur l'égalité des vitesses, de variation, de taux de substitution entre les différentes branches de l'arbre, vous arrivez à calibrer votre arbre. Alors, ce sont des techniques donc qui souffrent de quelques biais, quelques défauts, mais qui commencent à être de plus en plus robustes. Et ce que l'on voit, donc vous avez ici un arbre phylogénétique de ce qu'on appelle les Theraebacteria, bactéries adaptées à la vie continentale, les cyanobactéries apparaîtraient autour de 2,5 milliards d'années, au plus tôt 2,8 milliards d'années. De plus, on peut faire également ce qu'on appelle une reconstitution d'état ancestral. Comment était, quelle gueule, quelle tête avait l'ancêtre de toutes les cyanobactéries, comme on fait pour Lucas, vous avez peut-être le dernier ancêtre de toutes les de toutes les formes cellulaires. Donc là, ce sont des gens qui ont fait un arbre phylogénétique, on encode les différents caractères, en gros, est-ce que c'est gros, est-ce que c'est petit, est-ce que ça forme des biofilms ou pas, où est-ce que ça vit? Et pour résumer donc les résultats, mais là, il y a une convergence vraiment des résultats de recherche, les premières cyanobactéries étaient planctoniques, donc elles ne formaient pas de biofilms, elles vivaient en eau douce, elles sont apparues sur les continents, et elles étaient toutes petites. Donc les premiers stromatolites n'ont pas pu être formés par des cyanobactéries. La première occurrence de biofilms de stromatolites formés par des cyanobactéries, donc c'est à 2,8 milliards d'années, c'est un article qui devrait sortir sous peu. Monsieur Stéphane Lalonde en a parlé dans une conférence accessible sur le site Planète Terre que je vous recommande chaudement. Alors, on a parlé de l'apparition des cyanobactéries, mais je vous ai parlé des puits qui étaient importants. Eh bien, il y aurait encore monsieur Stéphane Lalonde qui est dedans. Une idée qui est apparue relativement récemment, c'est la disparition de certains puits à oxygène et une famine des archées qui aurait conduit à l'oxygénation de la Terre. Alors, vous avez ici donc une équipe qui s'est intéressée à mesurer le rapport nickel sur fer dans les minerais de fer rubané, avec une idée à peu près compréhensible. Plus le rapport nickel sur fer dans les bifs est faible, plus le rapport nickel sur fer de l'océan était faible. Bon, okay. Alors, comment est-ce que cela s'articule avec l'oxygénation de l'atmosphère? Juste un petit point taxonomie. Les seuls organismes qui produisent du méthane, d'accord, qui ont été isolés, ce sont des archées méthanogènes. Bactéries méthanogènes, il faut oublier. Alors, voilà l'idée. Ah oui, pardon, je n'ai pas montré ça. Vous avez ici ce graphe qui montre la température d'émission des basaltes. Et évidemment, on en a parlé, la Terre se refroidit au cours du temps. Par conséquent, les taux de fusion partielle ont tendance à baisser. Par conséquent, la concentration en éléments compatibles des laves, magnésium, nickel, chrome, a tendance à baisser aussi. Alors une fois qu'on sait ça, on peut proposer ce scénario. La Terre interne se refroidit. Donc il y a moins de magnésium, nickel, chrome dans les laves. Donc il y en a moins dans les océans. Moins d'apport par l'érosion, l'hydrothermalisme dans les océans. Donc, il y a moins de synthèse d'hydrogénase, enzyme qui métabolise l'hydrogène utilisé par les archées pour produire le méthane, moins de synthèse d'hydrogénase par les archées méthanogènes. Qui dit moins de synthèse d'hydrogénase dit moins d'archées méthanogènes, moins de méthane dans l'atmosphère. Moins de méthane, donc moins de consommation d'oxygène par le méthane, et donc plus d'oxygène dans l'atmosphère. Et là, si vous me permettez, cette parole un peu prime sautière, le serpent se mord la queue, puisque les archées méthanogènes détestent l'oxygène. Donc il y a eu une sorte de rétroaction positive. Donc voilà ce que l'on peut dire des causes du grand événement Occident. Et alors, en ce qui concerne les conséquences, eh bien vous avez ici un affleurement, une roche qui est un peu le cauchemar de Jungström. Hjulström, donc c'est le scientifique scandinave qui avait établi que plus un courant est fort, plus les particules déposées sont fines. Sont grosses, pardon. Plus un courant est faible, plus on va déposer des particules fines. Et alors vous voyez ici des particules toutes fines, et poum, au milieu, un gros galet. Alors grâce au principe d'actualisme, on peut voir que c'est un ça correspond à quelque chose qui est glaciaire, un sédiment glaciaire, à savoir un glacier qui va racler le socle et arracher des roches, lorsqu'il devient iceberg et qu'il fond dans l'océan, produit des blocs de délestage ou dropstone. Eh bien, ces dropstone, à 2,4 milliards d'années, on les trouve un peu partout dans le monde et surtout à des très basses latitudes. Les tropiques, c'est plus ou moins 23 degrés. Donc là, 11 degrés, on est quasiment, on touche l'équateur. Et donc, on pense qu'il y a eu à cette époque ce qu'on appelle des snowball earths, des terres boules de neige. Et alors, pourquoi? Est-ce que c'est une conséquence du grand événement Occident? L'oxygène n'est pas un gaz à effet de serre, mais le méthane, oui. Si je fais baisser la teneur en méthane, je fais baisser l'effet de serre. Faisant baisser l'effet de serre, je vais glacer la Terre. D'accord? Donc voilà ce que l'on imagine pour le grand événement Occident. Et donc on a eu une oxygénation de l'atmosphère jusqu'à 0,2 à 2% d'oxygène, ce qui est déjà remarquable. D'accord? Ça a entraîné des conséquences minéralogiques très grandes. Il y a beaucoup plus d'oxyde et de sulfate dans les minéraux que l'on retrouve dans les sédiments. Également des conséquences biologiques très importantes. Lorsque l'on fait des reconstitutions phylogénétiques, on voit que tous les systèmes de détoxification des espèces réactives de l'oxygène, les rubrédoxines réductases, ça date à peu près de cette période-là. D'accord? Et donc la glaciation. Et ce qu'on va noter, c'est qu'après le grand événement Occident, donc la pression atmosphérique, je l'ai dit, c'est entre 0,2 et 2% d'oxygène, l'océan reste globalement anoxique, sauf en surface. Et on passe tout de suite au milliard ennuyeux. J'ai essayé de passer assez rapidement. 1,8 à 800 millions d'années. Alors, quels sont les marqueurs? Voilà. Vous avez ici un peu aussi une compilation de données un peu partout. On va essayer d'interpréter ça rapidement. Vous voyez ici le rapport strontium 87 sur strontium 86 des océans, qui ne bouge pas beaucoup. Le climat, ça n'a pas l'air de varier énormément. Donc, pendant le milliard ennuyeux, stabilité de la dynamique crustale et stabilité du climat terrestre. Si je regarde le delta C13 des carbonates, qui va m'indiquer est-ce que j'enfouis la matière organique, est-ce que je l'oxyde, c'est remarquablement stable. D'accord? Donc, il se passe pas grand chose non plus. Et vous avez ici des marqueurs de l'oxygénation océanique. D'accord? À savoir les isotopes du chrome 54, la teneur en molybdène dans les argiles. Attention, bah là aussi, ça ne varie pas beaucoup. Alors, dire ça varie pas beaucoup, c'est pas grand chose. Par contre, comprendre les conditions de l'océan, c'est vrai que ça va permettre de comprendre beaucoup de choses sur l'évolution postérieure. Alors, quelles ont été les conditions redox? Vous avez ici, finalement, ce qu'on apprenait à la fin du siècle dernier, lorsqu'on passait les concours d'enseignement. Il y a eu un grand événement Occident. L'océan avant était ferrugineux, il est devenu oxygéné. Un petit peu d'épisode glaciaire avec on redépose des bifs, puis de nouveau oxygéné. Bien, vous avez Donald Canfield, donc quelqu'un qui travaille au Danemark et plein d'autres, qui ont, au début des années 2000, commencé à transformer un petit peu ce modèle. Donc sur des affleurements qui se trouvent, donc ici, c'est dans l'Ontario, donc daté d'1,9 milliard d'années, où dans la péninsule d'Avalon. Ce qu'ils ont montré, alors tout d'abord, c'est que suite au grand événement Occident, l'océan est devenu sulfureux. On a déposé la pyrite. Alors je vais essayer de vous expliquer pourquoi, parce que ça peut paraître contradictoire avec ce que j'ai dit auparavant. Alors que voit-on sur ces schémas? Eh bien, c'est que la teneur en fer des sédiments baisse très fortement. Par contre, la teneur en pyrite, on a des dépôts massifs de pyrite. Attention, qui ne sont pas détritiques, qui sont produites au sein de l'océan. Alors, j'espère que vous serez charitable avec mes talents de graphiste. Je vais essayer de vous faire un petit schéma pour vous montrer ce qui s'est passé. Il y a des océans, il y a des continents. un hommage peut-être involontaire à un pays martyr à l'heure actuelle. J'ai des soufres et des sulfures sur les continents. Avec un petit peu d'oxygène et d'eau, je les oxyde, j'en fais des sulfates et des oxydes de fer qui sont transportés, c'est un petit peu ce qu'on a vu en Isère, d'accord, jusqu'à l'océan. Et au fond de l'océan, donc alors l'océan est faiblement oxygéné en surface, et comme à l'heure actuelle, en profondeur, il y a un peu moins d'oxygène, donc là, des bactéries sulfato-réductrices peuvent réduire les sulfates en sulfure et déposer de la pyrite. Donc voilà les conditions du milliard ennuyeux. Et vers 800 millions d'années, il se passe un phénomène assez étrange, on n'a plus ces dépôts de pyrite, et donc c'est toujours un peu la même équipe qui est travaillée sur le cycle du soufre. En gros, l'océan est redevenu ferrugineux, et on pense que toute la pyrite, tout le soufre a disparu dans le manteau, enfin a disparu, est passé par subduction dans le manteau. C'est vraiment la tectonique des plaques qui explique cette transformation chimique. Donc voilà peut-être un modèle un peu plus crédible, un peu plus actuel à présenter à vos étudiantes et étudiants. Et là, on peut se demander pourquoi observe-t-on une stase biologique pendant ce milliard ennuyeux. Bien, vous avez ici une classification de Goldschmidt des éléments qui montre leur affinité géochimique et vous avez ici en jaune tous les éléments qui adorent les sulfures, qu'on dit chalcophiles. Et en gros, cuivre, zinc, sélénium adorent les sulfures. Et même dans les sidérophiles, le manganèse, le fer, le cobalt, le nickel, le molybdène adorent les sulfures. Si on avait un océan sulfureux, on peut supposer que très peu de ces métaux étaient disponibles pour les êtres vivants. Ces métaux servant aux sites actifs, enfin étant à l'intérieur de sites actifs de plein d'enzymes, la vie n'a pas pu, en gros, il n'a pas pu avoir de grande productivité organique. Alors, il y a une autre hypothèse assez amusante, je trouve, et assez crédible, c'est lié au cycle de l'azote. On sait que l'azote rentre dans le cycle biologique via ce qu'on appelle la nitrogénase, qui permet de fixer le diazote. D'ailleurs, vous voyez, c'est du molybdène que l'on a dans le site actif. Et les cyanobactéries qui fixent l'azote, elles ont un problème, c'est que toutes les nitrogénases détestent, vous mettez toutes les guillemets que vous voulez, l'oxygène. D'accord? Et ce qu'ont trouvé les cyanobactéries, en gros, c'est de faire ce qu'on appelle des hétérocystes, des cellules qui n'ont pas de photosystème 2, donc qui vont être spécialisées dans la fixation de l'azote. Les premiers hétérocystes convaincants, pour les paléontologues, apparaissent au Dévonien dans la flore d'Aurigny. Et alors, vous avez un modèle amusant dans lequel les cyanobactéries peuvent fixer de l'azote pour vivre, se développent, mais produisent de l'oxygène en même temps qu'elles se développent, et cet oxygène va inhiber la nitrogénase, ce qui fait qu'on ne dépasse pas 2% d'oxygène pendant le milliard ennuyeux. Alors, nous allons parler maintenant des événements d'oxygénation protérozoïque et paléozoïque. Il se produit plein de choses à partir de 8 milliards d'années, notamment glaciation majeure et sélection des eucaryotes modernes. Alors, glaciation majeure, toujours la même chose, on retrouve des restes glaciaires, des sédiments glaciaires que l'on date, on reconstitue la paléolatitude grâce au paléomagnétisme, et on voit qu'il y en avait plein, à basse latitude. Comment expliquer ces glaciations majeures? Eh bien, par la tectonique des plaques. Donc, vous avez ici des travaux de gens de Saclay. Alors, je crois qu'il y en a un qui est maintenant Yannick Donadieu au CEREJ, à Aix. Vous aviez une paléopangée qu'on appelait Rodinia, qui s'est éclatée, enfin, qui s'est fragmentée selon une direction est-ouest. Ceci a augmenté, évidemment, le ruissellement sur des continents. Et attention, sous les tropiques, ce qui veut dire qu'il a plu énormément sur de la croûte continentale. Résultat, altération intense, et qui dit altération, notamment des silicates calciques, dit consommation de CO2. Qui dit consommation de CO2 dit baisse de l'effet de serre, et donc glaciation majeure. Eh bien, cette glaciation majeure a eu une influence majeure sur nos ancêtres. Vous toutes, nous tous, nous avons des stérols dans nos membranes. Les stérols qui permettent de stabiliser les membranes plasmiques lorsqu'il y a du froid. Eh bien, les premiers eucaryotes, alors on n'arrive pas vraiment à les retrouver. Par contre, dans des schistes bitumineux, on retrouve des précurseurs de stérols qui appartenaient à certains eucaryotes et des vrais stérols qui appartient aux eucaryotes, qui ont donné les eucaryotes modernes. Après ces grandes glaciations, on retrouve plus ces précurseurs de stérols. Résultat, cette grande glaciation a sélectionné les eucaryotes modernes. Mais également, elle a changé la productivité marine, à savoir elle a favorisé les algues unicellulaires eucaryotes par rapport aux cyanobactéries. Vous avez ici, les bactéries produisent plutôt des opanes, vont laisser des opanes comme fossiles géochimiques, les eucaryotes des stéranes. Et donc ici, c'est une compilation de données autour de ces grandes glaciations avec différents stéranes eucaryotes. Et ce que l'on voit, c'est que après les grandes glaciations, le rapport eucaryote sur procaryote augmente très fortement. Maintenant, ce sont vraiment des algues qui vont faire la photosynthèse. Et elles commencent à prédominer, donc ici, autour de 630 millions d'années. Alors, pourquoi est-ce que ça va oxygéner les plateformes océaniques? Eh bien, tout simplement, je vais un peu vite, parce que elles sont plus grosses, donc elles sont plus lourdes, donc elles tombent plus vite, donc elles n'ont pas le temps d'être respirées. Ok? C'est vraiment ça le principe. On a produit un piège à oxygène. Alors, les éponges ont aussi joué un rôle. Et voilà, on oxygène à la fin du protérozoïque les plateformes grâce à la prédominance algaire. Et ceci entraîne l'apparition des faunes édiacariennes. Vous avez ici, donc ça date de décembre 2024, donc c'est tout récent, la biodiversité des eucaryotes pendant le milliard ennuyeux, c'est simple, facile à retenir, il se passe pas grand-chose. Après ces grandes glaciations, ça monte, puis ça redescend, on a peut-être la trace d'une des premières grandes extinctions, et on a les faunes édiacariennes qui ont des affinités taxonomiques un peu difficiles à trouver avec des organismes actuels, qui apparaissent juste après cet événement. Alors la question qu'on peut se poser, est-ce que cette oxygénation a concerné l'océan profond? C'est rare de trouver des sédiments vraiment de fond de bassin, des sédiments profonds. Par contre, et ça fera le lien avec ce qu'Alexandre Aubray va nous parler tout à l'heure, on peut trouver des ophiolites. Et ces ophiolites, parfois, première spécialité, il me semble que vous en parlez, peuvent subir du métamorphisme hydrothermal. Et on peut supposer que plus l'eau contient d'oxygène, plus le fer des basaltes est oxydé. Et on a forcément quelque chose qui est profond d'un point de vue océanique, les dorsales étant actuellement à 2500 mètres de profondeur. Donc, des géologues ont réalisé ces manips, ont vu que, oui, le fer, donc vous avez ici, en abscisse, Fe3+, sur fer total, le fer est de plus en plus oxydé dans les basaltes au cours de l'histoire de la Terre. Simplement, vous voyez que pour le protérozoïque, on voit pas grand-chose. C'est plutôt au paléozoïque qu'a lieu cette histoire. Alors, retenez ça. D'un point de vue de l'océan global, et surtout profond, la notion d'événement protérozoïque, elle est pas discutable, pas franchement établie. Par contre, du point de vue des plateformes, où est réalisé l'ensemble du registre d'enregistrement paléontologique, là, c'est majeur. Et donc, l'océan est oxygéné de manière comparable à ce qui est observé aujourd'hui à la fin du Dévonien. Après, entre la fin du protérozoïque et le Dévonien, il se passe plein de choses, les gens sont pas d'accord, et je vais être un peu pudique sur ces affaires, simplement pour vous dire que c'est au Dévonien que l'on a oxygénation vraiment de l'atmosphère comparable à celle qu'on a actuelle. C'est lié à l'installation des plantes sur les continents qui va permettre de séquestrer du carbone et d'envoyer des phosphates à l'océan, donc d'augmenter la productivité organique. Et c'est lié à la taille maximale des chordées, donc on voit des grands prédateurs. Alors, on va récapituler rapidement. Éclatement, que se passe-t-il pour l'événement néoprotérozoïque? Éclatement de Rodinia selon un axe est-ouest, altération des silicates, il fait très froid, on sélectionne les eucaryotes modernes et les algues qui vont entraîner l'événement d'oxygénation néoprotérozoïque. Et on installe les faunes édiacariennes. Et en ce qui concerne le paléozoïque, on colonise les terres émergées par les plantes, de l'ordovicien au dévonien, on piège du carbone sous forme de matière organique, donc l'océan et l'atmosphère sont plus oxygénés, et on a de grands poissons, grands céphalopodes, qui apparaissent pendant le dévonien. Donc vous avez ici une frise, donc, publiée aussi en décembre 2024, de l'oxygénation, telle qu'on la voit à l'heure actuelle, Donc voilà, vous pourrez enseigner, et nous essaierons d'enseigner, des données relativement récentes à nos étudiantes et à nos étudiants. Et je suis allé un peu où ils l'ont, ça va. Je vous remercie pour votre attention. Il y a 30 secondes, oui, non.
Une question de curiosité à ce terrain. Comment on voit les pierres aussi en Isère, dans quelle zone?
C'est sur le site Planète Terre. Les grandes rousses. Voilà, facile à retenir parce que c'est la couleur un peu rousse. Les grandes rousses. Ah oui, donc la question, c'est la transition entre minerais de fer rubané et lit rouge. Alors simplement, il y a coexistence parfois. Le 31 décembre, moins 2,4 milliards d'années, l'atmosphère ne devient pas directement oxydante. Donc on les retrouve, ils se chevauchent en quelque sorte. Alors attention, les minerais de fer rubané sont plutôt d'affinité océanique, on le sait grâce au spectre de terres rares. Mais voilà, entre 2,2 et 1,9 milliards d'années, ça fait quand même 300 millions d'années d'histoire de la Terre. Les deux types de formations peuvent coexister.
Les orogénèses par altération du silicate conduisent à un refroidissement.
Oui.
Or ici, c'est la fragmentation de rodinia qui cause le refroidissement.
Alors, la fragmentation, alors oui, mais là, ça n'est pas... Ah oui, pardon, faut reformuler la question. Donc, il y a une question sur l'altération et sur les orogénèses, avec une petite contradiction qui apparaîtrait. Alors attention, l'altération et l'érosion augmentent lorsqu'il y a une orogénèse, on est d'accord, parce qu'il y a plus de silicates qui vont être altérés. Pourquoi? Parce que je forme des reliefs facilement altérables, et généralement je peux dévier les circulations atmosphériques. Il tombe 12 mètres d'eau sur le piémont himalayen, sur les plus forts reliefs à l'heure actuelle, ça augmente l'altération. Là, il est vrai qu'il y a eu de la augmentation de l'altération alors qu'on était en phase plutôt de fragmentation continentale. Mais cette fragmentation continentale, et c'est ça qui est important, Rodinia, ce super gros continent, le centre du continent était aride. Donc il n'y avait pas d'altération d'érosion. Quand bien même c'est en milieu tropical. Quand tu es trop loin de l'eau, ça sert à rien d'avoir un bon ensoleillement. Quand vous êtes, pardon. Lorsque on a fragmenté Rodinia, vous avez eu la surface de contact entre les masses continentales et l'eau qui a augmenté. Par conséquent, l'altération a augmenté et donc le piégeage du CO2. Voilà, j'espère que c'est clair, que le collègue... Il est poli en plus, c'est bien. Comme tous les collègues. Ah, alors la question c'est, si on n'a pas de cyanobactéries dans les stromatolites, notamment les plus anciennes, que peut-on trouver? Eh bien, en fait, on peut trouver plein de choses. Hop, voilà. Les cyanobactéries fabriquent des carbonates ou induisent la formation de carbonates parce qu'elles piègent du CO2. Et en fait, n'importe quel métabolisme autotrophe permet l'induction de formation de carbonate. Et notamment, il y a des stromatolites pleins de pyrite qui existent. On peut supposer que ce sont des bactéries sulfato-réductrices qui les ont formées. Pour d'autres, alors, après il y a des discussions par rapport aux molécules qui sont trouvées, on pense que ce sont des phototrophes anoxygéniques. Finalement, les groupes que l'on a trouvés dans le lac Los Azufres. D'accord. Donc voilà, il y a une question sur les horloges moléculaires et sur le fait, y a-t-il suffisamment de fossiles non ambigus pour être certain qu'elles soient bien calibrées? Alors ça, c'est un gros débat parmi les gens qui font cela, mais ce à quoi s'intéressent les gens dans les fossiles, ce sont les fossiles moléculaires. Donc on a parlé des différents, par exemple, stéranes qui sont produits par les eucaryotes, que ce soit les cholestanes, stigmatstanes et ainsi de suite. On date forcément, la première occurrence paléontologique n'est pas forcément l'apparition, mais donne une contrainte sur l'apparition. Donc il y en a de plus en plus, et pour les cyanobactéries, certaines sont quand même très bien préservées dans le registre fossile. Je vous ai parlé d'hétérocystes et d'acinètes qui sont présents au Dévonien de Rhini, donc une formation en Écosse. Donc j'aurais tendance à faire confiance à cela, au moins pour les cyanobactéries. Maintenant, il est vrai que les hypothèses de taux d'évolution à la même vitesse, maintenant, ne sont plus crédibles. Il y a ce qu'on appelle des horloges relaxées qui existe. Ça n'est jamais qu'un pari, mais pas plus que de faire un arbre phylogénétique. Donc, c'est à peu près crédible. Et quand même, il y a des choses qui sont assez bien retrouvées. Enfin, pourquoi j'aurais tendance à leur faire confiance? Puisque les arbres phylogénétiques des cyanobactéries ont permis de dater l'apparition des systèmes de détoxification autour du grand événement Occident, de manière indépendante. Et vous avez autre chose sur les horloges moléculaires. Alors là, c'est pour tout à fait autre chose pour la punaise qui cause la maladie de Chagas. On s'intéresse au gène de la cytochrome oxydase. On voit que la punaise diverge d'Amérique du Sud, diverge de son homologue africaine autour de 100 millions d'années, autour du moment où on ouvre l'Atlantique. Donc, alors attention, peut-être qu'on montre juste les beaux résultats et pas les moches tout pourris qui sont notre lot quotidien, mais on peut avoir une confiance à peu près relative. Alors, ici, et alors là, je suis désolé, j'ai pas. Pardon. Donc, il y a une question sur les isotopes du soufre et la couche d'ozone. Donc voilà, j'ai pas regardé non plus toute la bibliographie dedans, notamment est-ce que les gens arrivent à quantifier la quantité d'ozone qui était présente à ces époques. Ce que l'on voit, alors évidemment, il y a toujours des biais d'échantillonnage, mais c'est que vraiment avant 2,5 milliards d'années, là-dessus, c'est absolument pas ambigu, c'est très rare de trouver du fractionnement dépendant de la masse. Après 2,2 milliards d'années, on ne trouve quasiment que ça. Il y a des calculs. Alors, les UV durs qui favorisent vraiment ces fractionnements, il n'y a pas besoin d'énormément d'ozone pour tous les absorber parce que le soleil ne nous en envoie pas énormément. On a du mal à être quantitatif, mais la datation, enfin vraiment, du grand événement Occident avec les isotopes du soufre, les indices minéralogiques et l'apparition des cyanobactéries, le refroidissement de la Terre, là maintenant c'est un scénario qui a l'air assez solidement établi. Ce sont les UV durs, ce sont les UV très énergétiques à courte longueur d'onde. Donc parmi les UV, ils vont pas te faire bronzer, ils vont favoriser les cancers divers et variés. Donc UV à courte longueur d'onde. Donc très énergétique. Oui. Ah, alors comment est-ce qu'on sait qu'il y avait des UV durs à l'époque? Parce que là, ce sont les astrophysiciens qui connaissent le fonctionnement des étoiles. On connaît le spectre d'émission et on sait que quand vous envoyez un satellite dans l'espace, il se tape des UV durs, d'accord? Et on suppose que ça existait aussi au moment ces UV durs pendant le grand événement Occident. Alors j'en ai assez peu parlé, enfin on peut pas parler de tout, mais ce que nous disent les astrophysiciens sur le Soleil, vraiment, c'est que depuis sa formation jusqu'à maintenant, il produit de plus en plus d'énergie. D'accord? Et c'était un grand paradoxe qui avait du mal à être compris. Comment se fait-il que, alors que le Soleil était peu énergétique, on avait quand même de l'eau liquide? Ben, on le sait maintenant, c'est que l'atmosphère terrestre était pleine de gaz à effet de serre. Ah oui, alors pour celles et ceux que ça intéresse, alors il y a vraiment une conférence remarquable de Monsieur Stéphane Lalonde. Un article va sortir bientôt qui va vous parler de datation de cyanobactéries et de photosynthèse oxygénique. Sinon, vous avez deux articles sur le protérozoïque et les événements d'oxygénation qui reprennent un peu le début. D'accord, de cette conférence. Et de toute façon, être un enseignant de sciences de la vie et de la Terre et ne pas regarder le site Planète Terre n'est pas une très bonne idée. C'est le message qu'on essaie de faire passer aux étudiants.
Merci beaucoup Greg pour cette conférence.